Le journal Pascal Massirica.
Minutes d'information toutes dimensions, madame, messieurs, bonjour. Mise sur pied du bureau de la CENI à Kinshasa pour sortir du blocage. Le député national Modeste Bahati-Loukebo suggère la révision de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Lutte contre le VIH-Sida en RDC, l'ONG internationale MSF Belgique plaide pour que des politiques de financement de lutte contre ce fléau soient urgemment élaborées et pour cela elle tend la main à l'Union européenne, à la Banque mondiale et à l'ONU-SIDA. Et puis, le courant électrique pose problème en ce moment dans certains quartiers de Kinshasa à l'approche des fêtes de fin d'année. Kimbwala à Mongafula et Kingabwa à Limete, par exemple, sont dans les noirs. Voici plusieurs semaines. La SNEL s'explique. Merci si vous nous rejoignez, madame, messieurs. Réviser la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, c'est ce qu'a proposé ce week-end le député national Modeste Bahati-Loukebo au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Selon lui, c'est la seule voie de sortie pour la mise en place du bureau de la CENI en prenant en compte, bien évidemment, la proposition du Sénat. Je vous propose d'écouter Bahati-Loukebo au micro de Julien Nyamouini.
Notre classe politique doit savoir s'assumer. Elle veut une chose et son contraire. Elle a voulu que la société civile soit exclue de la CENI. Alors que c'est au sein de la société civile que l'on doit trouver logiquement les personnalités indépendantes. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes bloqués. Je crois que la solution va être la révision de la loi pour qu'on revienne à la proposition sage du Sénat qui voulait qu'il y ait à la fois la majorité pour 10 personnes, l'opposition pour 8 et la société civile pour 8 délégués et un bureau composé de 9 personnes. Pour le cas d'espèce, je crois que la voie de sortie, c'est la révision de la loi portant fonctionnement de la CENI. Or, chaque minute, chaque semaine, chaque mois qui passe, c'est du temps perdu et nous repoussons les élections au-delà du calendrier initialement proposé.
Et puis, un député national cambriolé dans la nuit de vendredi au samedi dans son domicile ici à Kinshasa. Il s'agit de Michel Kumaluta, député MLC élu d'Ilebo. Le député décrit ses agresseurs comme étant masqués, armés, habillés en tenue de policiers et ils étaient au nombre de 5. Il ajoute que ces cambrioleurs ont agi très tard dans la nuit alors que lui et ses proches étaient réunis en pleine veille mortuaire. Les assaillants, dit-il, ont donc réclamé de l'argent. Ils ont tiré plusieurs coups de feu en l'air et avant que la police locale n'arrive, ce groupe d'agresseurs a réussi à s'éclipser en portant un certain nombre de biens parmi lesquels des téléphones, des sacs à main arrachés sur place, mais aussi plusieurs appareils qui se trouvaient au salon du député national. Michel Kumaluta est au micro de Dona Madimba.
Et aussi ce qui m'a fait encore trop mal, tous ceux qui sont venus au deuil, on les a fait coucher tous, on les a dépouillés, on a dépouillé tout ce qui était dans leur poche, tout l'argent ils ont pris, ils ont pris au moins tous les sacs des mamans, vous savez que les mamans se promènent avec des sacs, ils ont pris et aussi 15 téléphones des gens qui étaient là.
Est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un vous veut du mal?
Oui, et certainement cela est vrai, puisque dans ma communauté, j'ai même vu quelqu'un qui est venu me dire, et m'informer, et en présence même de certains témoins, me dire que d'ici là on va vous tuer. Et j'ai porté cette affaire là auprès de la communauté, nous sommes en pour parler avec ça.
Mais c'était à quel moment ça?
C'était le 14 juillet de l'année en cours.
Rubrique santé à présent. L'ONG internationale MSF Belgique demande aux bailleurs de fonds tels que les pays de l'Union européenne, la Banque mondiale et l'ONU-SIDA d'élaborer urgemment des politiques de financement de lutte contre le VIH-SIDA en République démocratique du Congo. L'appel est lancé après le rejet la semaine dernière à Genève en Suisse d'une proposition pour financer la prise en charge des malades du SIDA. Dans un communiqué publié ce week-end, MSF exprime sa crainte de voir le rejet des financements aggravés. La situation des patients. Selon la coordinatrice du projet SIDA à MSF, seulement 12% des personnes en RDC ont accès au traitement antirétroviral. Corinne Benazech est jointe au téléphone par Jeff Ngoy.
Le round 10, donc le programme de financement numéro 10 pour le Fonds mondial, permettait de mettre d'autres patients en besoin sous traitement antirétroviral. Donc si les patients n'ont pas accès à la thérapie, nous savons qu'ils vont mourir. On peut vivre de plus en plus longtemps avec des soins et un traitement adapté. Mais il faut que ça soit disponible. Et la série 10, ce programme-là, aurait permis de mettre de plus en plus de patients sous verre. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? Aujourd'hui, les programmes en cours vont permettre de mettre quelques patients sous ARV, mais pas suffisamment. Les prochains programmes qui seront disponibles, éventuellement, ce sera le round 11, dans le programme de financement 11, qui ne sera pas, lui, disponible avant une année ou deux ans. Donc vous voyez, il y a sur une liste d'attente de 183 000 personnes qui n'auront pas forcément accès aujourd'hui.
De son côté, le gouvernement congolais, par le biais de son ministre de la Santé publique, dit attendre encore d'être officiellement notifié pour donner sa position. Toutefois, le ministre de la Santé remercie Médecins sans frontières de se soucier de la RDC. Victor Makwenga Kaput est au téléphone de Jeff Ngoy.
Les 12%, ce sont les gens éligibles pour le moment. Notre tendance, c'est aller vers moins 30% d'éligibilité par rapport à l'accès aux antirétroviraux. Mais bon, c'est une décision du Fonds mondial qui serait tombée parce que on n'a pas encore la notification officielle. Lorsqu'on aura la notification officielle, le pays va réagir parce qu'en fait, il y a toute une équipe qui travaille, qui essaie de voir dans quelle mesure on peut répondre à certains critères. Même si on n'a pas pu répondre à tous les critères, on a la possibilité de recourir justement à d'autres procédures pour pouvoir être éligible. Donc merci pour Médecins sans frontières d'avoir répondu, c'est bien.
Mais vous reconnaissez au moins le régime de la proposition de financement?
Non, il y avait le conseil d'administration, mais après le conseil d'administration, on notifie au pays officiellement.
Électricité à Kinshasa, ainsi que je vous le disais en titre, certains quartiers sont dans les noirs, voici plusieurs semaines. À Kimwala par exemple, dans la commune de Mongafula, c'est une des cabines qui est hors service. Même chose à Kingabwa, dans la commune de Limété. La SNEL, contactée pour ces problèmes, a plusieurs fois promis de réagir, mais aujourd'hui encore, la situation est restée inchangée. À une semaine des fêtes de fin d'année, 2010, les habitants de ces quartiers de la ville de Kinshasa craignent déjà la manière dont ils risquent de passer ces événements. Du côté de la SNEL, on rassure. Écoutez à ces sujets Alain Bokele, directeur d'exploitation à la SNEL Kinshasa, interrogé par Dona Madima au téléphone.
Nous espérons d'ici les 24 entreprendre certaines actions, notamment dans la remise en service des cabines dont les transformateurs sont avariés, ainsi que la réparation de certains fidèles moyens sont prioritaires afin de pouvoir alimenter notre clientèle. Donc ça doit se faire d'ici le 24. Et les restes des actions, nous allons les poursuivre après Noël pour que aussi que les gens puissent bien fêter la nouvelle année.
L'actualité, c'est aussi à l'Équateur où il y a nécessité d'accroître l'assistance aux nombreuses familles déplacées et retournées sur le tronçon Bujala-Kungu dans le sud Ubangi. Révélation faite par Guimarin Akamandji, chargé des communications au sein de la Caritas Congo. Ceci à l'issue d'une mission d'évaluation de l'assistance en biens non alimentaires et en kit médical accordée par sa structure à près de 5000 familles déplacées de Dongo 1, Bobito, Bujala et Boyazala. C'était en avril et en septembre 2010. Selon Guy Kamandji, l'aide apportée par les humanitaires à ces personnes ne résout qu'en partie le problème. Il a été joint au téléphone par Ghislaine Nentobo.
Il y a une couverture insuffisante de l'aide humanitaire, à la fois en termes des milliers de familles touchées par la crise d'octobre 2009, mais aussi sur le plan des besoins humanitaires exprimés. Il y en a qui ont perdu leur habitation. Aujourd'hui, il y a une certaine reconstruction, mais ce n'est pas assez suffisant. Il y a sur le plan de la santé, sur le plan de l'eau et assainissement, sur le plan des biens non alimentaires, des mamans qui sont là sans instance de cuisine, mais aussi sur le plan de l'éducation des enfants qui sont rentrés, mais dont les possibilités en termes de fourniture scolaire font défaut. C'est pour tout cela que la Caritas estime qu'il faut accroître l'aide humanitaire en vue de faciliter le retour à la fois des réfugiés qui sont encore en République du Congo, mais aussi des déplacés internes.
Enfin, sachez qu'en territoire de Monkoto, toujours dans la province de l'Équateur, on a clôturé samedi dernier le jubilé de son centenaire d'existence, de sa création le 13 juillet 1910 au 13 juillet 2010. Comment se présente actuellement le développement de Monkoto? C'est la question principale autour de laquelle ont gravité les manifestations du jubilé. Et à cette occasion, les ressortissants de ces territoires ont parlé du désenclavement de Monkoto et de la protection environnementale. José Boyela, président de l'association socioculturelle de Monkotoville, revient ici sur certaines recommandations faites au gouvernement. Il est au téléphone de Jeff Ngoy.
À ce qui concerne la gestion du parc national de la Salonga, concernant la biodiversité et la conservation d'ailleurs des gaz biocarboniques, parce que c'est un espace du patrimoine mondial qui absorbe tous les gaz carboniques. Le pouvoir public doit s'associer pour que la population du territoire de Monkoto puisse bénéficier de ce parc, parce que depuis qu'on a créé le parc national de la Salonga, cette population souffre de l'insécurité. À ce qui concerne le braconnage. Ensuite, nous voulons que les pouvoirs publics puissent intervenir à ce qui concerne la conservation des gaz carboniques.
Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je remets l'antenne à Céleste Hippoly pour la suite des programmes. Okapi, Okapi, Radio, Okapi.